C'est Sweet Home Chicago qui redémarre comme chaque samedi de 13h à 15h avec pour commencer le disque du mois, coup de cœur Fnac Sweet Home Chicago, Boubou Davis, Name of the Game avec La Plage, Stay from the Casino et c'est chez Crossroads Black & Tan. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce samedi ensoleillé. Profitez bien du week-end parce que dès lundi, ça remet ça au niveau mauvais temps. On a un superbe anticyclone en ce moment sur la Normandie. On a tout petit peu de brume, mais ça nous permet quand même de voir le Havre depuis le 8e étage de la tour, ici à Hérouville-Saint-Clair. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts, bien calés, soit en voiture, soit à la maison, tranquillement, devant l'ordinateur ou le poste de radio pour 2 heures de blues, rien que du blues, avec, pour commencer, on l'a dit, Boubou Davis. Également disque de la semaine, Monsieur Biter Smith, son tout nouvel album. Et oui, qui croyait qu'il allait encore sortir un disque alors qu'il avait annoncé il y a 2 ans sa retraite. Biter Smith qui est né en 1933, tout comme John Mayall, dont on va abondamment parler tout à l'heure dans l'émission. Biter Smith, Blues on the Moon, c'est le titre de son album chez Delmark Records, avec Anthony Palmer à la guitare, s'il vous plaît, Daryl Kant au keyboards, Greg McDaniel à la basse et James Carter à la batterie. Donc disque de la semaine, Blues on the Moon, chez chez Delmark, l'autre label de Chicago, le plus ancien. Et puis, tout de suite, là, maintenant, juste avant le sommaire complet de l'émission, voici une nouveauté live enregistrée en 2008, Big O Records. C'est un petit label américain, live à The Kaliak Club, un groupe qu'on connaît pour son album précédent, Root Doctor. Ils font dans la soul, ils font dans le gospel, ils font dans le blues, ils font dans le rock and roll. Là, on est plutôt un petit peu plus soft avec Keep Your Business Off the Street. J'aime bien l'expression. Root Doctor. Ça, sur tout l'album, il y a des sonorités très très différentes. Ça fait partie d'un album qui s'appelle Live at the Cadillac Club, avec une photo un petit peu truquée, mais d'origine. C'est-à-dire que vous avez l'avant d'une Cadillac qui sort d'un mur. Voilà, c'est très très américain. Root Doctor, c'est sur le petit label Big O Records. On vient d'entendre Keep Your Business, All Business, pardon, Off the Street, avec donc le chanteur Freddie Cunningham. Dans Sweet Home Chicago, aujourd'hui, plusieurs interviews. Dans la deuxième heure, on aura le droit à donc notre ami Jacques Picard, président de l'association Backstage, qui nous présentera deux dates phares, on va dire, pour l'association cette année. Bien sûr, celle que vous connaissez tous, le 8 octobre prochain, au Zénith de Caen, avec la venue de John Mayall. John Mayall qui fait une tournée française de 21 dates en 3 semaines. Je ne sais pas si on peut faire tellement mieux. Et il y aura également, à cette date du mercredi 8 octobre, Spoonful en première partie. Je pense qu'on aura Igor également au téléphone en interview. Et puis en première heure, vers 13h30, on continuera cette série des interviews autour de la presse musicale. Quatrième volet aujourd'hui avec Jacques Leblanc, qui est donc rédacteur en chef et créateur de la revue Jukebox Magazine depuis 1984, qui nous fera part de son expérience, et puis qui nous parlera également de l'actualité, de la genèse et du devenir de Jukebox Magazine. Voilà, je vous rappelle qu'on est engagé depuis début septembre dans cette série d'interviews, donc quatrième volet, le cinquième volet la semaine prochaine avec Francis Ratto, qui nous parlera de Crossroads, toute la suite des interviews, l'agenda des invités. Vous pourrez retrouver cette longue liste sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Allez, place au disque de la semaine maintenant, Arthur Smith. Lui, il a encore des problèmes malgré son âge avancé, ou peut-être à cause de son âge avancé. Voici Hard Times. We'll be right back. Eh oui, toujours en forme le papy. Donc, Byton Smith, enregistré live at the Natural Rhythm Social Club. Voilà, un enregistrement Blues on the Moon chez Delmark Records, disque de la semaine pour ce 720e Sweet Home Chicago. On continue avec quelques nouveautés. Et puis donc, la suite du sommaire, ça va être quelques nouveautés, dont le dernier album de Joe Louis Walker, quand même, chez Dixie Frog, et oui. Le dernier album de Donna Green and the Roadhouse Daddies, j'aime bien le titre, ça s'appelle Girls Gotta Have a Little Pleasure. Pourquoi Little? Et puis le nouvel album de Johnny Hooker Jr. Le précédent m'avait pas franchement emballé, celui-ci est vraiment très très bien, surtout quand il fait des choses un peu modernes comme ça. Ça s'appelle Extra Marital Affair, Johnny Hooker Jr., le fils de l'autre.
When a man takes a wife, they make vows to be together for the rest of their life. Through sickness and health, till death do them part. When you see some smoke, people, look out for the fire he was having. Extramarital affair. No matter what town we had a show in, that woman was always there. When he would announce that he was leaving, his little girl, she began to cry. She went on a hunger strike, said, Daddy, I'd rather die. He turned to his sobbing wife of 20 years, fake like he was sad that he was leaving, and he shed a tear he was having. State or country we had a concert in, we noticed that woman was always there. She was licking her lips in front of the stage and blowing him kisses. After the show was over, he went and he handled his business. I tried to explain to him what he was doing, it just wasn't right. He cursed me out and shoved me, and he wanted to fight. She was his fantasy, his dream come true. She did freakish things in the room that his wife refused to do. He was having, yes he was, extramarital affair. No matter what town or country, that woman was always there. Was paying bills one day and noticed calls from another state. Instead of calling Verizon, she decided to investigate. She disguised her voice. The lady said, ooh, honey, where you been? Put a razor out of her bosom and said, I don't wanna ever see you again. He was having extramarital affair. No matter what continent we had a show in, sad ending, but this is how story goes. Somebody put a hit out on his lover, both legs broke. You can't compare to what happened to him that happened to his mistress. Wife took out a policy on him and he came out missing. He was having, yes he was, extramarital affair. No matter what town or continent,
voilà, je sais pas comment il arrive à dire ça, Extramarital Affair, voilà, Extramarital Affair, on va dire, hein. Et John Newker Jr. dans son dernier album qui s'appelle All Odds Against Me, voilà, un petit peu parano quand même le garçon, chez Jazz House Records, voilà, un nouvel album 12 titres qui contient également un bonus animated music vidéo avec le titre Blues Ain't Nothing But a Pimp. Voilà, jusqu'à 13h30, encore deux titres à vous faire partager, deux nouveautés. Je vous parlais de Donna Green, vous allez voir que là, le morceau précédent est tout à fait bien engagé avec celui qui arrive. Ça s'appelle tout simplement le titre album Girls Gotta Have a Little Pleasure. Au niveau sonorité, on va plus aller vers le jazz, vers des trucs un petit peu plus swing, un petit peu plus léger. Et puis ensuite, je serai très heureux de vous faire découvrir le tout nouvel album de Joe Louis Walker qui s'appelle Witness to the Blues. Voici Donna Green and the Roadhouse Daddies.
Your best champagne on ice now. This party's just begun. You never know where you'll find it, but I gotta get me some. A girl's gotta have a little pleasing, and not just once a week. Give me dining, dancing, fine romancing, and promises you can't keep. You never know where you'll find it, but I got some coming to me.
Gotta have a little pleasure. Voilà, je pense que toutes les femmes seront d'accord avec Donna Green. Donna Green and the Roadhouse Daddies, un album qui vient de sortir, mais qui est en autoproduction de l'autre côté de l'Atlantique. Donc vous pouvez vous procurer sur internet www.greenblues.com. Green, ça s'écrit G-R-E-E-N-E-B-L-U-E-S. Greenblues.com. Donna Green. Voilà, on passe maintenant à cette nouveauté que je vous évoquais tout à l'heure chez Dixie Frog. Et oui, c'est le premier album de Joe Louis Walker chez Dixie Frog. Je pense que le label La grenouille est en train d'aspirer un petit peu tous les bluesmen que peu à peu délaissent les autres labels qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà, je pense que Dixie Frog arrive vraiment, vraiment à tirer son épingle du jeu au niveau de la distribution, au niveau du choix de ses artistes depuis de nombreuses années maintenant. Hein, ça fait 22 ans maintenant que Philippe Langlois a lancé son label et puis ça fait 5-6 ans qu'il s'est vraiment, vraiment, à mon avis, ouvert sur plein de choses différentes et qui ne se cantonne pas au blues rock et à la country comme au tout début ou au Southern Rock. Eh bien, il y a des gens comme Eric Bibb qui sont arrivés pour ouvrir un petit peu tout ça. Depuis longtemps, il y a Tommy Castro dans l'écurie. Enfin, je vais pas vous faire l'historique de Dixie Frog Records. Et puis, je pense qu'on doit écouter des albums Dixie Frog à peu près toutes les semaines dans l'émission. Là, je vous ai choisi un titre dans lequel intervient la chanteuse Shemeika Copeland. Vous la connaissez, hein, c'est la fille du regretté Johnny Copeland qui chante en duo avec donc Joe Louis Walker sur Lover's Holiday.
So for real.
Pas besoin de traduction. Hein. Et donc c'était le duo composé de Chimica Copeland et Joe Louis Walker sur le tout nouvel album de Joe Louis Walker qui s'appelle Témoignage au Blues, Witness to the Blues, qui vient de sortir chez Dixie Frog, un album produit par Duke Robillard, et dans lequel joue également Duke Robillard, bien sûr. Puis on retrouve également le trompettiste Scott Arruda, Duke James au baryton, ténor sax, Todd Charville à la guitare. Oui, Todd Charville, vous connaissez sans doute. Il était venu nous voir il y a quelques années déjà du côté de la Traverse. C'est un garçon qui nous vient d'Angleterre. Mark Texera, bien sûr, à la batterie, John Ross à la basse, Bruce Katz au piano, à l'orgue, et bien sûr, Duke Robillard sur carrément 5 titres à la guitare acoustique ou à la guitare électrique. Voilà un album disque de la semaine, sans problème, dans Sweet Home Chicago. Il est 13h30, je reçois Jacques Leblanc au téléphone. Jacques, bonjour.
Bonjour Marc.
Comment ça va ?
Très bien.
Voilà, Jacques Leblanc, donc, qui est rédacteur en chef, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Hein, rédacteur en chef également, fondateur, créateur d'un magazine que tout le monde connaît forcément, qui s'appelle Jukebox Magazine.
En plus, qui fête ses 24 ans ce mois-ci.
Ce mois-ci, d'accord. Donc 24 ans d'existence pour un magazine qui est né au milieu des années 80, à une époque où peut-être on avait besoin de revenir sur des choses musicalement parlant. Est-ce que c'est la nostalgie d'abord qui a guidé la création du titre ?
Ça en fait partie, mais c'est surtout l'amour de la musique. Moi, je suis tombé dedans tout petit, j'avais pas 10 ans.
Ouais.
Johnny Hallyday, Chaussettes Noires, Chat Sauvage.
Voilà.
Et puis après, ben, les Rolling Stones qui ont été le grand choc de ma vie. Et de là, ben, revenir aux origines, déjà avec Elvis Presley, avec Chuck Berry, tous ces gens-là. Et puis aussi Muddy Waters, Bo Diddley, aller aux origines de la musique. Et puis moi, je suis devenu un peu une éponge. Je veux dire, de Sylvie Vartan aux Sex Pistols. Il y a des gens comme Mickey Baker qui ont accompagné à la fois Sylvie, Ronnie Bird, Billy Bridge. Donc je trouve une grande jonction dans la musique au sens
très très. Oui, tu parles de Mickey Baker, il a même joué avec Chantal Goya, je crois, dans les années 70. C'est un garçon qui a tout fait. 60, pardon, oui, oui, exact. Et écoute, moi je ne vais pas me hasarder à te coller hein, sur les années de sortie, les numéros de matrice et tout. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, pas seulement la nostalgie, bien sûr, l'amour de la musique avant tout. Et puis, j'allais dire.
Non plus, hein. C'est vrai qu'on a été bercé. C'est vrai que les années 60, c'était très très riche. À l'époque, les artistes sortaient 3, 4, 45 tours par an, des fois 2 albums par an. Il y avait une création musicale assez fabuleuse. Mmh. Tant au niveau des reprises, il nous a redécouvrir tout le patrimoine des années 50, en blues, en rock'n'roll, et au niveau aussi en création avec les Beatles, les Rolling Stones, les Kings, les Who. C'était vraiment très très riche, et tant sur la scène française que sur la scène bien sûr internationale, avec bien sûr les États-Unis en premier, et puis aussi l'Angleterre.
Alors si on parle des années 60 et de ce qui se passait en France à l'époque, à partir des Chats Sauvages, à partir donc de Dick Rivers, Eddie Mitchell, le Clo-Clo, on a l'impression, à la réécoute de ces 45 tours, qu'il y a beaucoup de choses, enfin c'est même pas une impression, ça s'avère souvent vrai, que ce sont des réécritures complètes de tubes américains en fait.
Il y a beaucoup d'adaptations, c'est vrai, mais aussi beaucoup de créations originales qu'on a tendance un peu à occulter aujourd'hui.
Mm-hmm.
Par exemple, Si tu n'étais pas mon frère, d'Eddie Mitchell, Société Anonyme, ce sont des créations originales. Il faut saisir sa chance de Johnny Hallyday ou Les Bras en Croix, c'est aussi création originale, qui sont à mon avis du même niveau que quand il fait...
Oui, allô, allô, allô. Ah, on a un petit problème de téléphone.
Non, moi j'entends très bien.
Non, c'est bon alors, pardon, vas-y, te laisse continuer.
Donc je disais que, un peu occulté les créations originales françaises, ils sont même si on prend Claude François, mais quand le matin, c'est une super création originale aussi. Après les goûts et les couleurs, c'est d'autres choses.
Mmh. Ah oui, ben, tout à fait. Alors, je voulais revenir à Jukebox Magazine parce que, donc là, nous sommes en 1984. Tu as déjà écouté pas mal de choses. Tu disais que tu avais découvert la musique surtout grâce aux Rolling Stones. Donc, à cette époque-là, qu'est-ce qui a été le déclencheur, j'allais dire, et puis également, quelles ont été les rencontres qui ont présidé à la création de Jukebox Magazine ?
Bien déjà, il y a l'esprit Disco Revue, Jean-Claude Berton, et en même temps Salut les copains, Daniel Filipacchi. C'est un peu d'être le coin du spécialiste, et en même temps essayer de vulgariser au plus grand nombre. Je vois un peu aux collectionneurs, quand ils sont deux, il y en a un de trop. Moi, si demain, c'est comme pour ton émission, si demain on est 10 000 et après on est 100 000, c'est mieux. plus on est nombreux à partager les mêmes passions, même si on a après des différences, il y a des petites chapelles dans chaque catégorie, ça va être le plus grand nombre à aimer cette musique qui nous a fait tant vibrer.
Donc d'abord le partage, et alors le fait que ce soit distribué...
Le partage est vraiment important, oui.
Ouais, bah, oui, la musique c'est fait pour être partagée, voilà. Hein, c'est bien connu. La diffusion de Jukebox Magazine, est-ce que ça a été en kiosque immédiatement, ou est-ce que ça a d'abord été sous moto?
Distribué à la main, on peut le dire.
Ouais.
Jusqu'au numéro 6, au numéro 7, comme on n'y arrivait pas, on critique toujours les NMPP, mais bon, c'est quand même le seul réseau français qui peut permettre d'accéder et de faire connaître, qui sert de vitrine pour faire connaître un magazine. Donc au numéro 7, on est passé en kiosque, et puis on est monté comme ça gentiment jusqu'aux années 90. Mmh. Et puis depuis, il faut quand même rappeler qu'il y a un peu une récession, sur tout ce qui est avec l'arrivée du CD et puis après l'Internet. Sur tout ce qui est la musicale aujourd'hui, quoi, ça, le marché est un peu en crise.
Oui, alors le marché de la musique, bien sûr, mais le marché entre guillemets, donc des revues musicales, bon ben, y a autant de titres qu'avant, c'est pas toujours les mêmes, mais je sais pas.
Il y a plus de titres. À l'arrière, moi j'ai collaboré à Def, Rock et Folk, j'ai fait Extra,
oui.
Différents magazines dans les années 70, et à l'époque où il y avait un fort marché d'acheteurs. Il n'y avait que 3 ou 4 revues.
Oui, oui.
Aujourd'hui, que le marché est tellement segmenté, il y en a peut-être 20 ou 30.
Oui.
Alors que on est de plus en plus dans des toutes petites niches.
Ben oui, des petites niches, parce que si on regarde, par exemple, dans une maison de la presse un petit peu étoffée, on s'aperçoit que rien que dans le métal, par exemple, on trouve 5 ou 6 titres, il y en a autant dans le rap, etc. C'est très,
sûr,
très
oui.
ciblé.
Oui.
Dans le blues, je prêche pour ma chapelle aussi, il n'y en a pas énormément. Il y a Blues Magazine, bien sûr, qui rayonne sur la région parisienne, et puis Blues Again, qui se trouve un petit peu partout en France, mais pas dans tous les kiosques, et puis ça s'arrête vite là. Pour le rock...
Je les connais, ils aiment ça, quoi. Ils font partager leur passion, c'est le...
Ah, bien sûr, oui.
C'est un peu similaire à du box, sauf que nous, on peut aussi bien traiter de Baby King ou Muddy Waters que faire Mylène Farmer, quoi. Mais
alors,
on veut le faire avec la même passion à chaque fois, la même rigueur.
Alors tu m'amènes à une question que je vais te poser tout à l'heure par rapport à la composition d'un numéro de Jukebox Magazine. Juste une petite question encore avant d'écouter le premier titre de ta sélection. Donc par rapport à la fréquence de parution, j'y arrive. Est-ce que ça a été mensuel dès le départ, même quand c'était pas distribué par
Non, c'était trimestre. Au début, bon, moi, je voulais faire un mensuel, mais on avait très très peu de moyens.
Oui.
On n'en a toujours pas beaucoup d'ailleurs. Sur notre impression, c'est un peu une revue un peu luxueuse.
C'est un bel objet, en tout cas.
Hein. Et donc, on était trimestriel pendant 2 ans.
Mm-hmm.
Après, on est passé bimestriel, donc tous les 2 mois. Et au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, on a réussi à trouver un rythme mensuel.
Alors, un mensuel, bon, quand au départ, on se lance dans un magazine, on ne sait pas forcément si on va devenir le salarié. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup pour même une équipe étoffée? Je veux dire, il y a quand même un rythme de travail qui est assez énorme pour animer un mensuel, non?
Bien sûr, parce qu'à la fois, on fait l'argus de la collection de disques, où il faut tout créer,
oui.
Des articles, mais bon... Je pense que si on aime ça, on vit pour ça, et c'est vraiment ma passion, et je pense que l'équipe qui est avec moi a la même passion de la musique, et on a à cœur de faire vivre ça. En plus, quand on fait les salons de disques de collection, là, le 6 disques, le prochain aura lieu les 11 et 12, octobre.
Oui, le 11 et 12 octobre, je reprends, parce que là, c'est vrai que la liaison téléphonique n'est pas terrible. 11 et 12 octobre, salon du disque, à l'espace Champéret, hein, c'est
voilà.
Ça, Jacques.
On aura Vigon qui chantera du rock'n'roll et du rhythm and blues aussi en attraction.
D'accord, ça parle à certains d'entre nous. On va poursuivre l'interview, Jacques, juste après ta première sélection. Alors pourquoi les Stones? Moi je crois qu'on a déjà compris.
Oui, c'est... Je veux dire, au début, il y a les Français, il y a un peu Cliff Richard, des Shadows, un peu Elvis, mais bon, au début l'anglais c'est un peu difficile. Les Beatles, j'accroche un petit peu, mais vraiment quand il y a les Stones, c'est...
D'accord.
Je pense que c'est une nouvelle naissance.
Donc je te poserai pas la question rituelle, plutôt Beatles, plutôt Stone. Là voilà, Jacques Leblanc a choisi son camp depuis fort longtemps. On va écouter un morceau de blues des Rolling Stones, parce que c'est vrai que les premiers albums des Stones, on l'oublie souvent, c'était du blues. Pourquoi le choix de ce titre, I'm a King Bee?
Bien, par rapport à ton émission d'abord,
mm-hmm.
Et puis c'est un morceau à l'époque qui m'a fait vibrer. Je me souviens quand j'ai écouté le 45 tours, j'adorais les morceaux comme Route 66, comme Carole, mais I'm a King Bee, il y avait une atmosphère, et je le mettais plusieurs fois de suite, à chaque fois, en montant le son régulièrement. Comme ça, le morceau durait au moins 10 minutes, et je trouvais ça fantastique comme morceau.
D'accord. Jacques, on va écouter ça, on se retrouve juste après.
Ok, merci.
Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Want you to be my queen. Well, I'm a king bee, baby. Want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while.
Stone, bien sûr, I'm a King Bee. On est toujours avec Jacques Leblanc, rédacteur en chef de Jukebox Magazine, dans ce 720e Sweet Home Chicago. On est en quelle année là? 62, 63
64.
64, d'accord. Donc c'est
64, le premier album, et quand je le réécoute, ça me fait toujours le même effet. Hein.
Ouais, c'est vrai.
L'harmonica, tout le truc. J'aimais pas l'harmonica avant les Stones quand j'ai entendu.
C'est Mick Jagger qui joue de l'harmonica.
Ouais, ouais. Et ça, c'était Brian Jones aussi. Plutôt, ça dépend des fois sur les disques.
Ouais, c'était avant l'épisode de la piscine. Est-ce que tu as des nouvelles récentes des Rolling Stones? Ils font des choses toujours en 2008.
Ah, ils sont toujours en activité. Et puis il y a toujours un clin d'œil au blues dans leur concert, hein, tout le temps.
Hein. Ils se sont.
Le morceau. Hein.
Ils se sont remis du départ de Bill Wyman en 92, qui lui aussi fait un joli parcours solo, entre guillemets, avec plein de gens, plein de choses qu'il avait envie de faire depuis longtemps.
Fame, comme Gary Brooker, des gens qui ont baigné dans le blues et rhythm and blues anglais dès 62, avec comme les Paramounts avec Gary Brooker avant Procolarum.
Oui. Alors, donc, on était en 1984, création de Jukebox Magazine. Moi, ce qui m'intéressait également, c'est de revenir un tout petit peu en arrière encore et savoir quelle part, toi, Jacques, tu avais dans la musique. Est-ce que tu étais, tu l'as dit, bien sûr, rock critique pour Best, Rock and Folk, tu as collaboré. Est-ce que tu es musicien également?
Quand j'étais tout gamin, j'ai joué de...
Ah, alors, ça coupe encore le téléphone, je ne sais pas ce qu'il a. Allô?
Oui, quand j'étais tout gamin, j'ai essayé de jouer de la guitare, j'étais pas très très doué.
Mm-hmm.
Et puis après, j'ai vu des gens comme Jeff Beck, comme Eric Clapton, donc je suis au service de la musique en journaliste.
Donc, tu t'es dit, oh là là, pour en arriver là, il y a trop de travail, je remets ma guitare au clou, c'est ça?
Non, c'est pas qu'il y a trop de travail, c'est. je pense que. On a dans les doigts, ça vient tout seul ou ça vient pas.
D'accord.
Moi, ça venait pas. Je pense qu'au départ, on était tous, on aurait tous voulu devenir chanteur comme Elvis ou guitariste comme Hank Marvin ou comme Keith Richards. Et puis après, faut avoir conscience de son talent ou de son absence de talent.
Ou de son absence de talent. Oui. Écoute, moi, ça m'amène à une question un petit peu relative, un petit peu comment dire, faire une comparaison avec ce qui se passe de nos jours. Tu sais que tous les jeunes de 14-18 ans veulent devenir des stars. Maintenant, c'est le grand mot. Il y a des émissions pour ça. Il y a des tas de tremplins un peu partout, et c'est vrai que tout le monde pousse la chansonnette dans les campagnes.
Il
y a toujours eu des tremplins. C'est ce que
Radio Crochet dans les années 30-40. Après, il y avait le tremplin du golf.
Le Dolph Drew, excuse-moi, parce que là, ça coupe encore le téléphone, décidément. Oui.
Oui, il y avait le tremplin du golf avec Henri Leproux, Jean-Claude Berton. Aura des pâquerettes.
Oui, c'est-à-dire que maintenant, c'est quoi? Ça s'est édulcoré, c'est devenu... je sais pas, c'est devenu trop commercial pour
Non, c'est pas. Je pense qu'on est toujours là pour faire du commerce. Même les artistes de blues comme Muddy Waters ou Holly Knowles, s'ils pouvaient vendre, au lieu de vendre 3 disques, ils pouvaient en vendre 300 et après 30 000 chez Chess, c'est emporté. Hein.
Oui.
On fait plein de disques pour rester dans sa salle de bain.
Non, c'est sûr, c'est
donc,
clair.
Le côté commercial me choque pas du tout. Mais enfin, ces émissions-là, je les regarde pas. Donc à part le zapping de Canal+, j'en vois pas plus que ça, moi.
D'accord. Bah écoute, on est deux. On est deux. Je voulais revenir sur ta sélection de disques. Je te demandais, comme à tous les invités de cette série d'émissions par rapport à la presse musicale, bah, de choisir trois titres. Le second, c'est un Français qui chante en français, hein, c'est ça, Ronnie Bird. Il avait pas mal... il avait un peu quitté les studios pendant pas mal d'années. On en entend à nouveau parler depuis quelques années, Ronnie Bird. Et je crois qu'on l'avait pas mal oublié, non?
Ah, j'ai fait beaucoup pour qu'on ne l'oublie pas, moi, dans Jukebox Magazine, entre autres, en lui consacrant deux couvertures, ce qui était un peu risqué.
Ouais.
Pour moi, c'est un autre choc de ma vie, parce que à cette époque-là, la différence d'âge, avant les Johnny, les Eddy, il y avait plus de différence d'âge, et là, j'arrive avec un artiste comme Ronnie Burr, où je suis beau. Il a le look, il va être...
Ouais, alors, décidément, on a un petit problème avec le téléphone. Excuse-moi, hein, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Au niveau technique, normalement, tout va bien, mais je sais pas, il y a un problème entre Paris et Hérouville-Saint-Clair, là.
Ouais, parce que moi, je t'entends impeccable.
Eh ben, écoute, tu dois te demander ce qui se passe. Donc, tu disais, alors, Ronnie Bird.
L'autre choc de ma vie, mm-hmm. Je vois pour la première fois par rapport à Johnny ou Eddie, où il y a plus de différence d'âge, quelqu'un avec qui je suis beaucoup en symbiose, il a le look, il a tout, il a comme j'aimerais envie d'être. Et puis il chante des morceaux qui me bougent très très fort. Là j'ai choisi un morceau plus bluesy par rapport à ton émission, c'est Ma vie s'enfuit.
D'accord, ben écoute Jack, on va écouter ça, on se retrouve juste après. Ma vie s'enfuit, Ronnie Bird. C'est assez rare d'avoir cette clairvoyance en étant tout jeune. Hein. Je ne sais pas en quelle année ça a été enregistré, ça, Jacques
65. 65.
65, il avait voilà. Quel âge René Byrd en 65?
Bah, il est né en 46, tu vois.
Ouais, donc 19 ans. 20 ans. Ma vie s'enfuit. Enfin, je sais pas, j'écoutais surtout la fin du titre. Voilà, la vie qui coule entre les doigts comme un sablier. À cet âge-là, on pense pas à ça. On a tout le monde devant soi, non?
Ouais. Enfin, les paroles sont de Gilles Thibault qui avait déjà pas mal vécu. Hein.
D'accord, bon, ça explique cela.
Départ, qui a écrit après pour Johnny, Sylvie Vartan et plein de gens, et qui avait une plume assez, qui est malheureusement décédé, qui avait une très belle plume.
Alors René Byrd, il en est où?
Aujourd'hui, il travaille à New York pour la télé allemande.
Ah d'accord.
Voilà.
D'accord, ben ça c'est original.
Voilà, j'ai déjeuné avec lui il y a 2 ans,
oui.
J'ai un peu au téléphone, voilà. Il a vécu les événements du 11 septembre, on en a parlé longuement, c'était assez tragique.
Il a été touché personnellement peut-être, non?
Non, mais il était en reportage justement tout près des tours quand ça s'est effondré.
Ah d'accord.
Il a failli perdre son... Lui, il est caméraman, il a failli perdre son preneur de son qu'il a réussi à retrouver.
D'accord, bah dis donc, c'est quelque chose. Tu parlais tout à l'heure en antenne, au tout début, de gens comme ça qui sont pas vraiment disparu, mais qui ont mené une autre carrière complètement différente, et qui à l'âge de la retraite se remettent à la musique. On peut en citer quelques-uns parmi les gens qui en 2008 réémergent à nouveau des années 60.
Bien sûr, nous, ça s'est passé depuis... quand on a fêté nos 20 ans du journal Montparnasse en octobre 2004, on a retrouvé des gens comme Mac Shannon, après Vic Lawrence, Danny Boy, Noël Deschamps, Gigon, et maintenant on fait régulièrement des concerts du journal Montparnasse, avec à la fois les gens de cette époque-là, et puis des artistes plus actuels comme Chris Evans, Ricky Norton, les Sockets Blanches, qui font vivre la pérennité, je dirais, sur cette noire Elvis Presley pour faire un raccourci.
Il y a des déménageurs également qui sont dans la bande, non?
Oui, exact aussi, hein? Oui. Il y en a de plus en plus qui perpétuent. On a retrouvé Jean Vedely, qui était le bassiste des Pirates. Le chanteur est mort et qui fait envie aussi le répertoire des Pirates.
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses d'une initiative qui a eu lieu il y a un an ou deux de faire une tournée de Zénith à une poignée d'artistes des années 60?
Bon, c'est sympathique, mais là c'est quand même beaucoup plus variété. Hein.
Ouais.
Donc nous on reste quand même dans un créneau un peu, je dirais, rock twist.
D'accord.
Sans être puriste, mais je pense que chacun doit être dans sa... Nous, on est dans notre petit milieu à nous, et on joue dans notre cour. On sait qu'on est petit, et on laisse les zéniths à d'autres personnes qui ont des structures plus importantes.
D'accord. Donc, Jukebox Magazine, c'est pas seulement un magazine, mais c'est aussi quelque chose qui est structuré autour d'un certain nombre de rubriques. Il y a des collaborateurs que j'imagine nombreux, et dont certains sont là depuis le début. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-uns?
Bien sûr. Disons, pour résumer, Jukebox Magazine, c'est parler du passé, mais on vit dans notre temps. Donc c'est de faire vivre la collection de disques avec les conventions de disques comme le CIDISC, là les 11 et 12 octobre à l'Étoile Champéret, avec une équipe qui elle aussi est passionnée, donc Jean-William Toury qui est là depuis le numéro 1,
d'accord,
par exemple, Jacques Barsamian qui nous a rejoint en cours de route et qui était au départ un des plus vieux journalistes de rock, qui a encore l'activité puisqu'il était à Disco Revue, Rock et Folk, Pop Musique.
Ah oui, il signe de Rock et Folk depuis très longtemps, moi je dois avoir acheté les premiers Rock et Folk vers 72, il était déjà dedans.
Ah non, 72 il n'y était plus.
Ah non, bah alors, tu vois, c'est des vieux numéros, ça doit être des vieux numéros que j'avais.
Voilà, lui il était en 66 à l'origine.
Ah d'accord.
Il est arrivé au numéro 1 dans les kiosques, il y avait eu une sorte de numéro avant en socialité. Il avait écrit pour Salut les copains également aussi à une époque avec Raymond Mouly. Bon, il y a Pierre Layani qui est notre secrétaire de rédaction et qui est très efficace. Bernard Mazanès, Christian de Vlaers qui est notre correspondant belge et qui fait des reportages assez fouillés. Et puis question photo, il y a Jean-Louis Rancurel qui est vraiment notre archiviste qui est là aussi depuis Disco Revue.
D'accord. Alors le choix...
Si je ne les ai pas cités, c'est pas pour ça qu'on... On les aime pas.
Bah c'est vrai qu'on peut pas.
Aussi, qui est un passionné, qui est un jeune et qui adore ça.
D'accord. On peut pas forcément citer tout le monde, mais c'est vrai que ça emmène le lot à combien. Vous êtes combien finalement? Une trentaine, quarantaine de collaborateurs?
Non, on a un petit nombre. On a une petite 5-6 plus quelques collaborateurs avec une dizaine à tout casser. Hein.
D'accord, c'est tout.
Après, il y a des gens, des fois, qu'on voit une fois parce qu'ils maîtrisent un sujet passionnément. Et puis qu'on. C'est du coup par coup un peu.
Alors comment se fait le choix de la une? Dans le numéro 261, il y a Sheila. Dans le prochain, tu m'as dit, il y aura les Beatles. Il y a un équilibre qui se fait entre français, étrangers, anglais, américains.
Il y a un équilibre justement entre français et étrangers. Et puis que dans chaque numéro, on traite un peu les années 50, 60, 70 ou 80. Des fois même plus actuels, puisqu'on a parlé de groupes récents comme les Bébés Bruns, comme les Nast.
D'accord.
On essaie de ne pas trop avoir de hier et d'être assez large dans nos choix, mais toujours sous l'aspect collection de disques.
Eh ben écoute, ça c'est tout à votre honneur, et c'est vrai que ne pas s'enfermer forcément dans un musée et puis faire partager avant tout, c'est quand même très valeureux, très méritant. Enfin, c'est un avis personnel.
Hein. Je m'en suis coupé, mais quand on fait chez là, il n'y a pas de côté people. Hein. on traite Sheila comme on traite Elvis.
D'accord.
Voilà.
C'est-à-dire
la même rigueur et le même aspect musical.
Et vous parlez de sa période disco, par exemple, en 77, 78, des choses comme ça,
c'est... Voilà, voilà. Et là, par exemple, le prochain article, c'est sur la couverture, c'est sur les Beatles. Je vais traiter les 45 tours américains des Beatles qui apportent un plus pour la collection, qui sont complètement les couplages dans les années 60. Chaque pays faisait un peu sa sauce. À l'époque, ça nous choquait parce qu'on voulait à tout prix voir les originaux. Aujourd'hui, c'est ce qui fait le charme de la collection de disques, parce que les couplages allemands sont différents des Français, des Anglais, des Américains. Et au niveau des pochettes, des choix des faces B, des fois il y a des titres qu'on peut dans un seul pays. Ça donne vraiment du sel à la collection de disques.
Qu'est-ce que tu penses, ce sera une de mes dernières questions, Jacques, qu'est-ce que tu penses des groupes qui font du tribute, comme par exemple les Rabbits qui font du Beatles, enfin il y a plein de tributes en ce moment qui émergent un peu partout.
Mais disons que nous on a fait un groupe au CIDISC, hein, qui était venu faire les Beatles entre autres, et comme les Beatles se sont plus en activité, ben, ça permet à plein de gens qui ne nous ont jamais vus de voir ce genre de groupe. Alors c'est vrai que on amène nous des Socquettes Blanches qui font des chaussettes noires.
Ouais.
Et Eddie Mitchell ne veut plus faire de chaussettes noires. Donc ça permet à une clientèle de alors les disques c'est sympathique, mais c'est vrai que sur scène ça apporte un phénomène qu'on peut pas retrouver. Alors quand le groupe existe encore, bon c'est vrai que c'est moins intéressant.
D'accord, il vaut mieux voir l'original quand il existe toujours, c'est ton message.
On a les Stones, on peut voir. Quoique les groupes qui font aussi les covers des Stones, bon c'est moins marquant parce que le groupe est encore en activité. Mais ils font du fois des répertoires qu'ils ne font plus.
Voilà, c'est sûr que si on regarde un concert des Stones maintenant, ben on n'a pas que des morceaux des années 60, il s'est passé tellement de choses depuis, quand on a plus de 40 ans d'existence, faire une setlist d'1h30 ou 2h, c'est pas évident.
Ils ont du choix, ce sont des groupes, ils peuvent faire deux concerts, parce qu'avec deux setlists différentes.
Ah oui, même plus, je pense.
Même plus, oui.
Ouais. Jacques Leblanc, hein, rédacteur en chef de la revue Jukebox Magazine, dernière question, comment est-ce qu'on fait pour se procurer le magazine? Est-ce qu'il est vraiment distribué partout ou
En kiosque. En France, il y a 30 000 points de vente, on va en toucher 5 000 à peu près. Bon. Donc si on cherche bien, on peut le trouver partout.
Eh bien, il suffit d'en faire 6 et... D'accord. Et on peut s'abonner. Alors comment faire pour ça?
Eh bien, Jukebox Magazine, 54 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, 65 € pour 13 numéros, et soit en cadeau, un CD ou un DVD.
D'accord, et eh bien voilà, c'est dit, c'est parfait. Jacques, je te remercie d'avoir participé à cette émission, et puis longue vie bien sûr à Jukebox Magazine, et puis on va certainement rester en contact, parce que voilà, il y a des choses intéressantes à échanger, je pense.
Bah, longue vie à la musique de Chicago. Hein.
Bah oui, complètement, Sweet Home Chicago, et pas que d'ailleurs. Bah, l'émission existe depuis presque 16 ans, mais voilà, c'est pas près de s'arrêter, je pense.
C'est éternel. La musique vient de là, comme disait Johnny, elle vient du blues. Hein.
Ça vient de là, ça vient du blues, exactement. Jacques, merci beaucoup, au revoir.
Merci Marc.
On termine avec ton dernier choix, donc c'est Carol de Chuck Berry. Voilà. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Ah bah oui, alors évidemment, non, si je mets pas on était reparti avec Ronnie Bird, donc désolé, voilà, c'est le genre de choses qui arrive, la preuve.
Jump and shout. It's not a trap.
Carroll qui a été repris maintes fois. C'était l'une des versions originales de Chuck Berry, au milieu des années 50. Si Jacques était encore là au téléphone, je pourrais même lui demander. Mais on a un autre invité maintenant, également collaborateur depuis les débuts à Jukebox Magazine, qui s'appelle Jean-William Toury. Bonjour Jean-William.
Oui, bonjour.
Ah ben, on t'entend super bien. Jean-William, tu te trouves où actuellement? Tu n'es pas sur Paris?
Non, je suis à Perpignan, je suis à la convention du disque de Perpignan.
D'accord, donc il y a des conventions du disque un peu partout. Jacques Leblanc nous parlait tout à l'heure d'une prochaine convention que vous allez, un prochain salon du disque que vous allez organiser à l'espace Champéret les 11 et 12 octobre.
Oui.
Avec un concert de Vigon d'ailleurs, il nous a annoncé ça.
Oui, et chaque après-midi Vigon viendra, oui.
Voilà, et donc là tu te trouves à Perpignan, ça veut dire que tu y passes tous tes week-ends pour aller...
Dans diverses conventions, non, j'ai surtout un lien avec celle de Perpignan.